Chapitre 6. De Naufle à Saint-Marcel. Un matin du début de juillet, bien avant l'aube, Jean de Cressay entra dans la chambre de sa sœur. Le jeune homme tenait une chandelle qui fumait. Il s'était lavé la barbe et portait sa meilleure cotte de cheval. « Lève-toi, Marie, » dit-il. « Tu pars ce matin. Pierre et moi, nous allons te conduire. » La jeune fille se dressa sur son lit.
« Partir ? Comment cela ? C'est ce matin que je dois partir ?»
L'esprit embrumé de sommeil, elle regardait son frère de ses grands yeux bleus sombres, fixement, sans comprendre. Machinalement, elle ramena par-dessus son épaule ses longs cheveux épais et soyeux, où passaient des reflets dorés. Jean de Cressay contemplait sans plaisir la beauté de sa sœur, comme si cette beauté eût été l'image même du péché. « Fais un paquet de théarde, car tu ne reviendras pas ici de sitôt. »«
Mais où me conduisez-vous ? » demanda Marie.
« Tu le verras. »«
Mais hier, pourquoi ne m'en avoir rien dit hier ?»«
Pour te donner le temps de nous jouer encore un tour de ta façon ?» Allons, hâte-toi. Je veux être en chemin avant que nos cerfs nous voient. Tu nous as couverts d'assez de honte. Point n'est besoin qu'ils jasent davantage. Marie ne répondit pas. Depuis un mois, sa famille ne la traitait pas d'autre manière, ni ne s'adressait à elle sur un autre ton. Elle se leva, un peu alourdie par sa grossesse, dont le poids, si modéré qu'il fût encore, la surprenait toujours au saut du lit. À la lueur de la chandelle laissée par Jean, elle se prépara, se passa de l'eau sur le visage et la poitrine, noua rapidement ses cheveux. Elle s'aperçut que ses mains tremblaient. Où l'emmenait-on ? Dans quel couvent ? Elle mit à son cou le reliquaire d'or que Guccio lui avait donné et qui venait, lui avait-il dit, de la reine Clémence. « Jusqu'à ce jour, ces reliques m'ont bien peu protégée, » pensa-t-elle. « Les ai-je mal priées ?» Elle plia ensemble une robe de dessus, quelques robes de dessous, un surcot et des toiles pour se laver. « Tu te couvriras de ta cape à grand chaperon, » lui lança Jean qui rentra un instant dans la chambre.
« Mais je vais périr de chaleur, » dit Marie. « C'est une vêture d'hiver. Notre mère veut que tu chemines le visage caché. Obéis et hâte-toi. »
Dans la cour, le second frère, Pierre, scellait lui-même les deux chevaux. Marie savait bien que ce jour devait arriver. Dans un sens, quelque angoisse qu'elle eut au cœur, elle ne souffrait pas tellement. Elle en était presque à souhaiter ce départ. La tristesse d'un couvent lui paraissait chose plus supportable que les griefs et les reproches journellement ressassés. Au moins, y serait-elle seule avec son malheur. Elle n'aurait plus à subir les fureurs de sa mère, alitée depuis que le drame avait éclaté et qui maudissait sa fille chaque fois que celle-ci lui portait une tisane. La grosse châtelaine était alors prise d'étouffement, et l'on devait appeler d'urgence le barbier de Naufle pour qu'il lui tirât une pinte de sang noir. Cela faisait 6 fois en moins de 2 semaines que l'on saignait d'Amélia Belle, et il ne paraissait pas que ce traitement accélérât son retour à la santé. Marie était traitée par ses deux frères, par Jean surtout, comme une criminelle. Ah, certes, plutôt le cloître, 1000 fois. Mais au fond d'une clôture, pourrait-elle jamais avoir des nouvelles de Guccio ? C'était là son obsession, sa véritable crainte du sort qui l'attendait. Ses méchants frères lui affirmaient que Guccio avait fui à l'étranger.
« Ils ne veulent point me l'avouer, » se disait-elle, « mais ils l'ont fait mettre en cachot. Il n'est pas possible qu'il m'ait abandonné. Ou bien alors, il est revenu dans le pays pour me sauver, et c'est pourquoi mes frères mettent tant de hâte à m'emmener, et après cela, ils vont le tuer. Ah, que ne me suis-je sauvé avec lui ?»
Son imagination lui représentait toutes les formes possibles de catastrophe. Elle en venait par instant à souhaiter que Guccio se fût réellement enfui, la laissant à son mauvais sort. Privée d'aucun conseil et même d'aucune compassion, elle n'avait d'autre compagnie que celle de son enfant à naître. Or, cette existence-là ne lui était que de petits secours, sinon pour le courage qu'elle lui inspirait. À l'instant de partir, Marie de Cressay demanda si elle pouvait dire adieu à sa mère. Pierre entra dans la chambre de Dame Elia Belle. Au cri poussé par la veuve, à qui les saignées n'avaient pas encore ôté toute la voix, Marie comprit l'inutile de sa démarche.
« Elle m'a répondu qu'elle n'avait plus de fille, » dit Pierre de Cressay en revenant.
Et Marie pensa une fois de plus,
« J'aurais mieux fait de m'enfuir avec Guccio. Tout cela est ma faute. Je devais le suivre. »
Les deux frères enfourchèrent leurs montures et Jean de Cressay prit sa sœur en croupe, parce que son cheval était le meilleur, ou plutôt le moins mauvais des deux. Pierre chevauchait le bidet cornard sur lequel, le mois précédent, les deux frères avaient fait une si belle entrée dans la capitale. Marie jeta un dernier regard au petit manoir, dont les toits, sous la demi-lueur d'une aube encore mal assurée, s'estompaient comme dans la grisaille déjà du souvenir. Tous les instants de sa vie depuis qu'elle avait ouvert les yeux étaient inscrits entre ces murs et dans ce paysage. Ces jeux de petite fille, la surprenante découverte de soi-même et du monde que chaque être fait à son tour, journée après journée. L'infinie diversité des herbes dans un champ, l'étrange forme des fleurs et la poudre merveilleuse qu'elles portent dans leur cœur. La douceur du duvet au ventre des petits canards, les jeux du soleil sur l'aile des libellules. Elle laissait là toutes les heures passées à se regarder grandir, à s'écouter rêver. Toutes les époques de son visage qu'elle avait si souvent miré dans l'eau transparente de la Maudre, et ce grand éblouissement de vivre qu'elle ressentait parfois couchée à plat d'eau au milieu de la prairie, en cherchant des présages dans la forme des nuages et en imaginant Dieu présent dans le fond du ciel.
« Abaisse ton chaperon !» lui ordonna son frère Jean.
Dès la rivière franchie, il fit prendre à son cheval une allure rapide, et celui de Pierre aussitôt se mit à corner.
« Jean, n'allons-nous pas un peu vite ?»
dit Pierre en désignant Marie d'un mouvement de tête.
« Bah, la mauvaise graine est toujours solidement plantée !»
répondit l'aîné comme s'il souhaitait méchamment un accident. Mais ses espoirs furent déçus. Marie était une fille robuste et faite pour la maternité. Elle parcourut les 10 lieues de Naufle à Paris sans donner signe de malaise. Simplement, elle avait les reins moulus, elle étouffait de chaleur, mais elle ne se plaignait pas. De Paris, elle ne vit par-dessous son capuchon que le sol des rues et le bas des maisons. Que de jambes, que de souliers. Ce qui la surprenait, c'était le bruit, l'immense bourdonnement de la ville, les voix des crieurs, des vendeurs de toutes denrées, les bruits des métiers. En certains endroits, la foule était si dense que les montures avaient peine à se frayer passage. Des passants heurtaient du coude ou de l'épaule les pieds de Marie. Enfin, les chevaux s'arrêtèrent. On fit descendre la jeune fille qui se sentait lasse et poussiéreuse. Seulement alors, elle fut autorisée à relever sa chape.
« Où sommes-nous ? »
demanda-t-elle en contemplant avec surprise la cour d'une belle demeure.
« Chez l'oncle de ton Lombard, » répondit Jean de Cressay.
Quelques instants plus tard, un œil fermé, l'autre ouvert, Messer Tholomeï regardait les trois enfants du sire de Cressay assis en rang devant lui. Jean le barbu, Pierre le glabre et leur sœur à côté, un peu en retrait, tête baissée.
« Comprenez, Messer Tholomeï, disait Jean, que vous nous avez fait une promesse.
« Certes, certes, répondait Tholomeï, et je vais la tenir, mes amis, n'en doutez pas.
Mais comprenez qu'il faut la tenir vite. Comprenez qu'après le bruit fait autour de cette honte, notre sœur ne peut davantage demeurer avec nous. Comprenez que nous n'osons plus paraître dans les maisons d'alentour, que nos serfs eux-mêmes se moquent de nous, et que ce sera bien pire encore quand le péché de notre sœur va s'arrondir. »
Tholomeï avait une réponse sur le bout des lèvres.
« Mais, mes garçons, c'est vous qui avez causé tout ce bruit. Nul ne vous obligeait de vous lancer comme des furieux contre Guccio en ameutant tout le bourg de Naufle mieux que par crieur public. Et puis notre mère ne se remet point de ce malheur. Elle a maudit sa fille, et de la voir auprès d'elle lui fait recroître la colère au point que nous craignons qu'elle n'en crève. Comprenez,
c'est la manie des sots que de vous sommer de comprendre. Bah, quand il aura la langue sèche, il s'arrêtera. Mais ce que je comprends fort bien, moi, se disait le banquier, c'est comment Guccio se soit mis folie en tête pour cette belle fille. Je lui donnais tort jusque-là, mais depuis qu'elle est entrée, j'ai changé d'avis. Et si mon âge permettait que pareille chose m'arrivât encore, je me serais sans doute conduit plus follement que lui. Les beaux yeux, les beaux cheveux, la belle peau, un vrai fruit de printemps. Et comme elle semble supporter son malheur avec courage. Car après tout, les deux autres cris, tempêtes, font les importants, mais c'est bien pour elle, la pauvre enfant, que la peine est la plus grande. Elle a sûrement une bonne âme. Quelle pitié pour elle d'être née sous le toit de ces deux niais. Et comme j'aurais aimé que Guccio pût l'épouser au grand jour, qu'elle vécût ici et que ma vieillesse se réjouit à la contempler. Il ne la quittait pas du regard. Marie levait les yeux sur lui, les rabaissait aussitôt, les relevait, inquiète de cette observation insistante.
« Comprenez, messeurs, que votre neveu... Ah, celui-là! Je le renie, je l'ai déshérité. S'il n'avait fui pour l'Italie, je crois que je l'aurais tué de mes doigts. Si je pouvais seulement savoir où il se cache, » dit Tholomeï en se prenant le front d'un air accablé.
À l'abri du petit auvent de ses mains, et ne se laissant voir que de la jeune fille, il cligna de sa grosse paupière habituellement affaissée. Marie sut alors qu'elle avait un allié. Elle ne put retenir un soupir. Guccio était vivant, Guccio était en lieu sûr, et Tholomeï savait où. Que lui importait le cloître maintenant? Elle n'écoutait plus le discours de son frère Jean. Elle aurait pu d'ailleurs le réciter par cœur. Pierre de Cressay lui-même se taisait, avec un air de vague lassitude. Il se reprochait, sans oser l'avouer, d'avoir cédé lui aussi à une colère absurde. Et il laissait son aîné parler de l'honneur du sang et des lois de chevalerie pour justifier leur énorme sottise. Car lorsque les frères Cressay, sortant de leur pauvre petit manoir délabré et de leur cour qui sentait le fumier hiver comme été, voyaient la demeure princière de Tholomeï, lorsqu'ils respiraient cet air de richesse, d'abondance qui flottait dans toute la maison, force leur était de reconnaître que leur sœur, s'ils avaient consenti à ce mariage, n'eût pas été des plus mal loties. Mais si le cadet éprouvait au fond quelques remords à l'égard de sa sœur, l'aîné, d'esprit buté et animé d'un assez bas sentiment de jalousie, pensait « Pourquoi aurait-elle droit par péché à tant de richesses, alors que nous peinons dans une vie misérable ?» Marie, elle non plus, n'était pas insensible au luxe qui l'entourait, l'éblouissait et ne faisait qu'aviver ses regrets. « Si seulement Guccio avait pu être un petit peu noble, songeait-elle, ou bien si nous ne l'avions pas été. Qu'est-ce que cela veut dire, la chevalerie? Est-ce là une bonne chose qui peut faire tant souffrir? Et la richesse n'était pas aussi une sorte de noblesse ?»«
Ne vous inquiétez de rien, mes amis, » dit enfin Tholomeï, et reposez-vous en tout sur moi. C'est le devoir des oncles de réparer les fautes de leurs mauvais neveux. J'ai obtenu, grâce à mes hautes amitiés, que votre sœur soit accueillie au couvent des filles Saint-Marcel. N'êtes-vous pas satisfait ?»
Les deux frères Cressay se regardèrent et hochèrent la tête d'un air approbateur. Le couvent des Clarisses du faubourg Saint-Marcel jouissait d'une grande réputation. N'y entraient que des filles de haut lignage, parfois même s'y dissimulaient sous le voile des bâtardises royales. La hargne de Jean de Cressay tomba d'un seul coup, apaisée par la vanité de caste. Il n'était pas de lieu où un déshonneur se pût racheter avec plus d'honneur. Et quand les petits barons des alentours de Naufle demanderaient aux Cressay où se trouvait Marie, il ne leur serait pas désagréable de répondre d'un air détaché « Elle est au couvent des filles Saint-Marcel ». Mais Tholomeï avait dû payer ou promettre gros pour qu'elle y soit admise.
« C'est fort bonne chose, fort bonne, » dit Jean. « D'ailleurs, l'abbesse est un peu, je crois, notre parente. Notre mère nous l'a plus d'une fois citée en exemple. Ainsi, tout est au mieux, » reprit Tholomeï. « Je vais conduire votre sœur au comte de Bouville, l'ancien grand chambellan. »
Les deux frères s'inclinèrent à nouveau sur leur siège pour marquer leur considération.
« Par qui j'ai obtenu cette faveur? Et ce soir, je vous le promets, elle sera confiée à l'abbesse, précisément. Vous pouvez donc repartir avec le calme au cœur. Je vous ferai tenir des nouvelles. »
Les deux frères n'en demandèrent pas davantage. Ils se débarrassaient de leur sœur et estimaient avoir assez fait en s'en déchargeant aux soins d'autrui.
« Dieu t'inspire le repentir, » dit Jean à Marie en guise d'adieu.
Il mit beaucoup plus de chaleur à prendre congé de Tholomeï.
« Dieu te garde, Marie, » dit Pierre avec émotion.
Il eut un mouvement pour embrasser sa sœur, mais sous le regard sévère de l'aîné, il n'acheva pas son geste. Et Marie se retrouva seule avec ce gros banquier au teint sombre, à la bouche charnue,
à l'œil clos, qui, si étrange que cela lui parut, était son oncle. Les deux chevaux sortirent de la cour et l'on entendit diminuer les reniflements du bidet Cornard, dernière rumeur de Cresset qui s'éloignait de Marie.
« Maintenant, allons à table, mon enfant. Le temps qu'on dîne, on ne pleure pas, » dit Tholomeï.
Il aida la jeune fille à enlever la cape sous laquelle elle suffoquait, et Marie eut un regard surpris, reconnaissant, car c'était la première marque d'attention ou simplement de courtoisie qu'on avait pour elle depuis des semaines.
« Tiens, une étoffe qui vient de chez moi, » se dit Tholomeï en voyant la robe dont elle était vêtue.